nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Chevauche, droit devant lui, il veut oublier sa vie. Chevauche dans la campagne, mange ce qu'il trouve, des fruits, boit de l'eau de source et dort dans des granges abandonnées. Le paysage est triste, il y a beaucoup de vent. Luc, dans les premiers jours, ne rencontre personne. Puis, comme il a très faim, il va dans les fermes demander du travail pour un peu à manger et un coin pour dormir. la mauvaise saison. Il n'y a presque rien à faire. Mais on a pitié de lui, de ce beau jeune homme. Alors on lui donne à manger, une soupe, un morceau de pain, du lard, des pommes, un verre de lait ou de vin. On lui redemande de peindre une barrière ou les volets. Et pour ce service, on peut coucher dans la grange. Sans bougie, bien entendu, à cause du feu. Il neige, il maigrit, mais reste beau garçon malgré tout. Les jours passent. Dans sa solitude, il se dit que peut-être que le destin va lui faire rencontrer son passé, ses origines. Il va peut-être trouver un témoin qui va lui dire vraiment qui il est. Il ne sait pas qui il aimerait être, mais il aimerait être lui. Il voyage toujours dans la campagne avec son cheval qui lui aussi maigrit comme lui. Mais il est brave ce cheval, et il aime beaucoup son maître. Et il aime lui aussi être au grand air, qu'enfermé dans une écurie, même si cette écurie est pleine de nourriture. Les jours passent. Au fur et à mesure qu'il avance, le décor devient de plus en plus lugubre, triste. Il n'y a plus de forêt, ni de champs. C'est la plaine à perte de vue, plaine avec des rochers, quelques herbes folles, où un vent siffle et file sur tout le paysage. Très sauvage et très froid. Il y a de moins en moins de choses à manger. Bien sûr, dans un lieu si sauvage et aride. Luc chevauche durant des heures, il est paralysé de froid, comme son cheval, il a faim. Sa tête n'arrive plus à penser. Il ne sait plus où il est, ce qu'il fait. Le cheval marche au pas. Il ne sent plus son maître pour le guider. Alors il va comme ça. Il marche par habitude. Il sait que s'il s'arrête, le maître ne dira rien. Il se demande ce qu'il fait dans ce paysage de brume sauvage, sans rien, et le vent, toujours ce vent. Quel vent froid, glacé. Tout d'un coup, il sent une secousse. Et voit son maître tomber à terre, ne bouge pas, lui attend. Luc, sur son cheval, a vu de plus en plus trouble, perdu connaissance et est tombé. Il ne bouge plus, allongé à terre, sur le ventre. Il est inconscient, mais une voix au fond de lui-même lui dit qu'il va mourir. Qu'il va mourir. Il n'a même plus conscience de ce que veut dire le mot mourir, sans que son corps s'enfonce dans la terre, qui se mélange à la terre, devient terre. Tu es terre et tu retournes, tu redeviens terre, terre froide. Très froide, comme un tombeau, comme un tombeau. Puis, il ne sent plus rien. Allongé sur le sol gelé, balayé par le vent, couché sur le ventre, Luc gît à côté de son cheval. La nuit vient. Luc ne sent plus rien. Il n'est plus de ce monde. Le bruit des pas de cheval sur le sol gelé. Le cheval de Luc a peur. L'autre cheval s'arrête. Cavalier, frigorifié, descend de cheval, se penche sur Luc. Il le retourne. Luc a les yeux fermés. Il ne bouge pas. L'homme met la main sur son corps, le soulève. Soulève Luc. Et le met à travers son cheval. Et monte. Puis s'éloigne. Le cheval de Luc suit de loin. Douce chaleur l'envahir. ouvre les yeux, voit une lumière jaune. Il ne peut pas bouger, mais voit en face de lui qu'il y a des poutres en bois et une fenêtre au volet en bois fermée. Il sent qu'il est allongé et recouvert d'une couverture grise grossière. Ne bouge pas, ne parle pas. Laisse la chaleur envahir son corps. Ça lui fait du bien. Il n'a besoin de rien d'autre. Rien d'autre. Il ne cherche pas à savoir comment il est venu jusque-là. Il est bien, il est chaud. Il s'endort, cette fois. Il s'endort, pas de trou noir, un vrai sommeil. Mais un bon sommeil, inconscient. Il ne rêve à rien. Ça fait du bien de se laisser aller. Il ne voit que du jaune, du rouge, du bleu. Tout à coup, il est réveillé par un petit bruit. Penché sur lui, un tout jeune homme, mince, blond, les cheveux qui ondulent, les yeux bleus clairs, un visage très doux et jeune. Luc n'a pas peur. Le jeune homme lui dit, « Vous allez mieux ?» Luc ouvre la bouche et réussit à dire, « Oui ?» Le jeune homme lui dit, « Je vous ai trouvé inconscient dans la campagne, la nuit. Alors je vous ai ramené chez moi. Vous êtes resté plusieurs jours, inconscient, gelé. » Luc lui dit, « Merci. » L'homme lui demande, « Vous appelez comment ?» Luc lui dit, « Luc Thermann. Moi, c'est Frank Gold. Vous êtes dans la ferme du Marais, du Cri. C'est ma ferme, je vais avec ma sœur. Et vous ?» Vous venez d'où ? Luc lui dit, de loin, de très loin. Et que faisiez-vous dans notre région ? Rien, je suppose que je vous chevauchais comme ça au hasard. Ça faisait des jours que je chevauchais. Vous n'avez pas de maison ? Non, je n'en ai plus. Je vagabonde. Frank lui dit, reposez-vous, vous êtes en sécurité chez nous. Et il le laisse. Luc se rendort calmement. Il se réveille et voici à côté du lit, une jeune fille qui semble grande et mince, les cheveux longs, tombants, blonds, les yeux bleus. Elle a un visage très doux, mais avec quelque chose de ferme. Porte une robe grise toute simple. Elle lui demande, « Vous allez mieux ?» Elle lui dit, « Oui, merci. » Il essaye de lui sourire et lui dit, « M'appelle Id, je suis la sœur de Frank. » Il dit, « Et moi, Luc ?» Elle se lève et lui dit, « Je vous apporte un bol de bouillon. » Et elle se retire. « Attends, il ne sait pas si la faim, la fatigue... » Il ne connaissait plus. Et puis son corps, qui était raidi par le froid. Il a entendu la porte s'ouvrir, la voir apparaître avec un bol fumant. Il a l'impression de voir une fée avec sa robe longue qui cache les mouvements de ses jambes. Et l'impression, c'est de flotter, de glisser. Elle se penche. Il soulève la tête pour lui soulever l'oreiller, puis lui donne le bol. Tenez, attention, c'est chaud. Prends le bol des deux mains. Il boit la petite gorgée. Le kiki est chaud. Ça chauffe son corps. Ça lui redonne vie. Il met un bon moment pour boire parce que c'est chaud. Une fois que c'est fini, il lui rend le bol. Merci. Il sourit et demande. Cheval, et lui dit, faut pas de soucis, il est à l'écurie. Il demande, c'est une ferme ici. Elle lui dit, c'est un vieux château, à moitié en ruine, qui était transformé en ferme. Nos parents sont morts, et nous a laissé ruiner. Alors il fallait bien faire quelque chose pour vivre. Nous avons gardé nos quelques terres, et essayé, c'est de faire des plantations et des paysans, mais ce n'est pas facile. Il dit, je comprends, moi aussi j'étais paysan, la ferme de mon père. Et lui demande, ils avaient tout laissé? Il lui dit, c'est un peu compliqué. Et lui dit, je vais vous laisser vous reposer. Et elle le laisse. Il reste toute la journée seul. Il entend le bruit de la ferme. Du bois que l'on coupe, des bêtes, la maison. Bruit de la maison, les portes claquent. Il a l'impression d'être dans une vieille maison de l'ancien temps, avec ses petites fenêtres, ses renfoncements, sa cheminée qui pétille. Une grande maison qui semble très vieille. Il y a dans sa chambre un coffre en bois pour mettre du linge, un fauteuil et une chaise. Il y a des poutres apparentes. Le mur, les pierres sont apparentes aussi. Ceci donne un côté vieux, mais agréable. Oh. dans la soirée et vient lui donner un bol de bouillon. Il passe une bonne nuit. Le lendemain, il se réveille, il fait grand jour. Il se sent bien, envie de se lever. Il y a du feu dans la cheminée. Il se découvre pour se lever et voit, rouge de honte, qu'il est tout nu. Il se demande ce qu'on a fait de ses vêtements. Ouvre l'armoire et les trouve. Ils sont propres. Il les met. Ça lui fait du bien de retrouver ses vêtements. Une fois qu'il est habillé, il sort de la chambre. Un couloir sombre, mur nu, tout apparente. Il fait froid. Couloir a des tas de portes en bois, épaisses. De l'autre côté des portes, il y a des fenêtres. Le sol, c'est de la pierre. Trouve au bout du couloir un escalier, un colimaçon en pierre aussi. Il le prend. Il se trouve dans une grande pièce avec une cheminée. Il y a du feu. Il y a une grande table de bois épaisse, des chaises autour de la table, un grand meuble de bois tout en longueur et deux fenêtres. La porte qui est en face des escaliers s'ouvre. C'est elle. Elle est surprise de le voir. Vous êtes levé? Il lui dit oui. Je me sens tout à fait bien. Elle lui dit, c'est peut-être qu'une impression. Vous croyez que vous allez mieux? Allez vous asseoir près du feu. Elle le prend. Elle fait asseoir près du feu, sur une chaise. Merci. Je suis confus de tout ce que vous avez fait pour moi. Je sais comment faire pour vous remercier. Je n'ai rien. Elle lui dit, nous aussi, nous n'avons rien. Ne faites pas de soucis pour ça. Nous l'avons. Il lui dit, je crois que je vais reprendre ma route. Et il demande, et pour aller où? Je ne sais pas. Elle lui fait, alors, puisque vous ne savez pas où vous devez aller, peut-être que vous êtes arrivé à destination. Il lui fait, mais dans quel but? Elle lui dit, peut-être pour rencontrer une personne. Il lui dit, la seule personne que je peux trouver, ce sera celle qui pourra me faire connaître mes origines. Elle lui dit, et comment cela sert-il de connaître son passé? C'est l'avenir qui est important. Il lui dit, vous avez peut-être raison, mais pour moi, mon passé est lié à mon avenir. et je dois continuer ma route pour ça. » Elle lui dit, « Vous partirez lorsqu'il fera meilleur temps. Et puis, lorsque vous aurez repris des forces. » Il lui dit, « Merci. » La porte s'est ouverte. C'est le frère qui entre. Il va à eux et dit, « C'est toi qui l'as fait descendre ? Folle que tu es !» Elle lui dit, « Non, c'est lui qui est descendu de lui-même. Parce qu'il se sent mieux, et même, il veut partir. » Franck dit à Luc, « Vous partirez dans quelque temps. Il faut d'abord prendre des forces. » Le frère et la sœur le laissent. Luc se repose au coin du feu. Il aime voir bouger les flammes, sa nuptie. Pendant ce temps, le frère et la sœur ramassent du bois pour la cheminée, des brindilles, des morceaux de bois. Ils s'y mettent dans la cheminée avec les bûches. Franck dit à sa sœur, « Fais attention !» Elle lui demande, « Quoi ?»« Tu sais bien, on ne le connaît pas. Et puis, il est peut-être déjà pris. » Elle lui dit, « Ça m'étonnerait. Tu es folle. » Les jours passent, Luc se promène l'après-midi, fait de longues marches dans la campagne, avec Hilde. Ils vont vers le marais, le paysage est lugubre. Le château va bien avec le pays, il est tout aussi lugubre. Le frère et la sœur produisent juste pour eux, rien de plus. Hilde, lorsqu'elle a vu Luc, lorsque son frère l'a amené à moitié mort, elle s'est mise à l'aimer à cause de son visage, son corps. Le pays est isolé et c'est rare lorsqu'il y a une visite. Et en plus, c'est un beau jeune homme qui est venu, qui est arrivé sans défense. Et c'est de suite mise arrivée. Luc aussi la trouve très belle. Elle lui montre sa volière qui se trouve dans son jardin d'hiver. Lui dit, je déteste la chasse. Mon frère ne chasse pas. Je lui ai interdit. Et vous ? Il dit, moi je pêche un peu, mais je ne fais pas ici. Elle est très heureuse de se promener avec lui. soir, après avoir mangé, ils se sont tous les trois assis près du feu. Ils se sont allongés à terre, sur le tapis. Il s'est endormi, la tête repliée sur son bras. Les flammes illuminent son visage. Hilde s'est assise en face de lui. Elle est prise par ce qu'elle voit. Il a la chemise légèrement ouverte et monte une poitrine lisse et blanche. Son visage est apaisé. On dirait un petit enfant. Tout ce qui est adulte a disparu de lui. Elle est émue jusqu'aux larmes. Franck la regarde. Il n'aime pas ça. Il se dit qu'elle est folle. Il se lève, se penche, secoue Luc. Luc se réveille, voit Franck. Franck lui dit, il faut se lever, il est tard. On doit aller se coucher. Luc se lève, Franck dit à sa sœur, viens, il est tard. Et ils sortent de la pièce. Elle sait qu'elle aime Luc. Elle rêve de lui toute la nuit. Dans l'après-midi, durant la promenade, elle ne cesse de le regarder. En riant, il lui demande, qu'est-ce que j'ai? Elle lui dit, gênée, rien. À un moment, elle se pend à son corps, effrayée. Il demande, qu'avez-vous? Elle lui dit, j'ai cru voir une bête, là, dans le marais. Il lui dit, allons voir. Elle frissonne de peur. Tout doucement, il la prend dans ses bras. Elle sent la douceur de son corps. Sa chemise. Luc sent sa douceur, sa fragilité. Il se regarde à lancer et l'amène vers le bord du marais. Il demande, qu'avez-vous vu? Elle lui dit, je ne sais pas. Là, dans l'eau, quelque chose debout qui bougeait. Il lui dit, peut-être une branche qui est tombée. Il fait un pas et glisse dans l'herbe. Il se trouve dans l'eau et sursaute. Il manque de tomber. Pour se retenir, elle se tient à sa chemise. Il la prend bien fortement dans ses bras et s'étend à son cou, heureuse. Lui ne le sait pas. Elle le regarde bien, son visage si beau. Une fois sur la terre ferme, le regard Elle le regarde. Et lorsqu'elle le regarde, le regard se croise en même temps. Si désirable. Alors il ne sait pourquoi, il se met à l'embrasser. Ce baiser l'enivre. Il sent son corps sur son corps. Il est pris de vertige. Et elle aussi. Elle aussi. Après l'avoir embrassée, il la regarde. La trouve si belle. Lui dit, petite fée, petite fée. Elle lui dit innocemment, pourquoi dit-il ça? Il dit, parce que vous êtes, vous baisez sont comme un filtre d'amour. Elle est heureuse. Elle lui dit, je serai toujours votre fée. J'ai besoin de vous. Il lui dit, et moi de vous. Et il l'embrasse. Ils sont heureux. En se retournant, elle lui dit, nous ne quitterons jamais. Il lui dit, je ne peux pas partir d'ici. Je suis envoûté par tout ce qui m'entoure. Elle lui dit, tu croyais que c'était moi? Il lui dit, tu es la fée. De ce qui m'entoure. Et ils s'en vont. Ils sont heureux. Heureux. Rient. Contents. Ils sont toujours ensemble. Il surveille, il n'aime pas ça. Un matin, dans la salle à manger, alors qu'ils sont seuls, assis, il lui demande, que t'arrive-t-il? Elle lui dit, rien. Si, tu es folle. Elle lui dit, idiot, je suis heureuse. Il lui dit, heureuse de quoi? Du vent qui passe? Elle fait, mais si le vent restait? Il lui dit, tu es folle? Non, je suis heureuse. Fais attention, le bonheur, on n'aime pas ça ici. Et quel est ton bonheur? Il lui dit, celui que tu m'as apporté, je ne t'ai rien apporté. Et tu sais très bien. Et puis, que tu ne peux être à quelqu'un de rien. Et lui, c'est peut-être un vagabond. Elle lui fait, un vagabond qui a un cheval? Il a peut-être volé. Pourquoi? Est-ce que tu l'as amené ici? Et tu penses que c'est un voleur? Il lui dit, un voleur est un être humain. Même. Mais il ne peut être un familier. Elle ouvre ses épaules et lui dit, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre, non? Non, je suis ton frère, et tu dois m'obéir. Je dois te marier. Elle lui demande. Et avec qui? Le marais? Ici, il n'y a personne. Il lui dit. Nous allons aller ailleurs, chercher. Tu veux me vendre? Comme une vache? Il lui dit. Non, comme une jeune fille sage. Elle lui fait. Je ne serai jamais sage. Et j'ai trouvé ce que je veux. Il lui dit, fais pas de folie. Tu es promise à plus grande que lui. Elle lui dit, pour moi, il est le plus grand. Il lui demande, pour sa bonté, jeunesse. Elle lui dit, oui. Et c'est beaucoup. Et puis, c'est ce trésor-là qu'a donné Dieu et non la fortune qui viendrait des hommes. Moi, je préfère entre le trésor de Dieu et celui des hommes, celui de Dieu. Il lui dit, tu sais pas ce que tu dis. La beauté est un trésor, mais qui se flétrit et devient poussière. La seule beauté que Dieu a donné, son seul trésor est celui de l'âme. Elle lui dit, mais lui a une âme. Tous les êtres ont une âme. Même les gens bons et même les vagabonds. Elle lui dit, peut-être il y a une âme, mais il y a âme et âme. Certaines âmes sont le diable, sont préservés pour le diable. Elle lui dit, tu peux pas savoir s'il a un homme pur ou non, si son visage est le reflet de l'âme. Il peut être le reflet de l'âme. Il lui dit, non, mais l'on dit la beauté du diable. Elle tape du pied et lui dit, tu es désagréable, tu te connais, même pas, et tu le traites comme si tu l'étais le diable en personne. Il lui dit, je n'ai pas dit ça. Et il sort de la pièce. Lorsqu'elle revoit Luc au jardin, il l'aide à retourner la terre. Elle lui dit, mais c'est toi de mon frère. Il est dans un état, dans une humeur ce matin. vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.